Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième et dernière partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre Alfred Deakin, l'un des pionniers de l'Australie contemporaine. Il a été l'un des artisans de la création de la Fédération australienne. Aujourd'hui, on explore la fin de sa carrière politique, celle durant laquelle il a rencontré ses premiers échecs. On s'intéressera également à son bilan, un bilan riche, puisque en tant qu'un des premiers hommes à la tête du gouvernement australien, de nombreuses institutions ont été créées sous son impulsion. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Ce rapprochement entre libre-échangiste d'un côté et protectionniste de l'autre, en gros le camp du business, on va dire, face à celui du peuple, pour le dire peut-être de façon un peu rapide et très subjective, c'est un peu l'ancêtre de la coalition qu'on a aujourd'hui en Australie, où c'est des partis qui n'ont rien à voir. Et puis la question qui viendra après, c'est que malgré cette alliance, ça va pas marcher pour Deakin. Il va quand même perdre les élections suivantes face à ces dangereux gauchistes.
Oui, alors vous posez une question très juste sur est-ce que ces partis-là sont l'ancêtre du Parti libéral de droite australien aujourd'hui? Ce qui est intéressant quand on compare la politique française et la politique australienne, alors je ne veux pas faire de grandes généralités, mais on a cette idée en France que la droite, pendant assez longtemps, était plus concentrée et plus forte. Certains se souviendront du RPR, qui est devenu les Républicains, des moments de majorité très forte, avec cette idée que en France, la gauche serait divisée depuis très longtemps, en réalité. En Australie, c'est le parallèle inverse. C'est généralement la gauche qui a réussi à être rassemblée et forte, et la droite, ou du moins les droites, très divisé. Alors aussi en France, on a des traditions de droite différentes, René Raymond l'a bien expliqué, mais au pouvoir, ce qu'on voit généralement sont des blocs majoritaires forts. En Australie, c'est un peu l'inverse. Et c'est intéressant de faire ce parallèle que vous avez proposé entre hier et aujourd'hui, entre il y a 100, 120 ans et aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on voit, ce qui se passait dans le Parti libéral australien, c'est l'explosion des différentes factions et le fait qu'ils n'arrivent pas à proposer une voie unifiée. Et ça, c'est un peu une tradition de droite, entre guillemets, en Australie. Et donc, pour en revenir à Alfred Deakin, il est le second Premier ministre australien, mais il est Premier ministre à trois reprises du fait de cette instabilité ministérielle chronique. Il est Premier ministre entre 1903 et 1904, puis entre 1905 et 1908, et enfin entre 1909 et 1910. Sa période la plus féconde, c'est la majorité la plus longue, entre 1905 et 1908.
On va y
Et
revenir. Ouais.
d'accord, pardon. Alors, je vais pas couper d'ores et déjà, alors.
Non, mais vous pouviez terminer sur le fait que pour ces élections, enfin ce dernier mandat qui se termine en 1910, avant de nouvelles élections, il a rassemblé pour la première fois deux factions, les libre-échangistes et les protectionnistes, espérant ainsi s'assurer la victoire, la réélection. Et pourtant, ça n'a pas marché. C'est les travaillistes, qui vont l'emporter.
Oui, parce que, si vous voulez, ce qui est paradoxal, c'est qu'en s'associant aux anti-protectionnistes, eh bien, vous avez certains protectionnistes qui se disent, ah ben, il nous a déçus, en fait, il nous a trompés sur la marchandise. Pour le punir, on va aller voter à gauche. Donc, c'est assez contre-intuitif, si vous voulez, mais la majorité, en fait, est perdue par Deakin parce que les dissensions au sein de sa coalition entre protectionnistes et anti-protectionnistes sont trop fortes. Et ça crée des tensions non seulement à l'intérieur de ce parti qui s'appelle Fusion, et en fait ça favorise le fait que beaucoup d'Australiens se disent, mais en fait, ils ont passé des firmes dans le Parti travailliste. Donc, ça favorise l'accès de Chris Watson au pouvoir. Donc là, on est en 1904, mais c'est un gouvernement travailliste qui dure pas très longtemps. Il dure 113 jours de mémoire. Et l'erreur est recommise, en fait, plus tard par Deakin, lors de son deuxième mandat. En 1808, c'est pareil, il repère vis-à-vis de travaillistes qui, cette fois-ci, resteront 201 jours au pouvoir, emmenés par le premier ministre Andrew Fisher, qui est un premier ministre australien très intéressant. C'est un peu le pendant de gauche de Deakin. Il a une carrière assez phénoménale et exceptionnelle. Et il redeviendra premier ministre, lui aussi, à trois reprises, comme Deakin, ce qui est assez intéressant.
Alors, cette dernière défaite électorale de 1910, elle marque plus ou moins la fin de la carrière d'Alfred Deakin. Enfin, il continuera à œuvrer un petit peu dans l'opposition, mais ce sera plus jamais tout à fait avec la même flamboyance. Avant de terminer, je voulais quand même revenir sur son second mandat de Premier ministre. Vous l'avez dit, c'est le plus long entre 1905 et 1908, et sûrement celui durant lequel le plus de choses ont été faites, et justement, je voulais revenir là-dessus parce qu'il a un bilan sur ce mandat qui est particulièrement intéressant. Il a posé à nouveau d'autres bases très solides, des institutions, etc., qui existent toujours aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus?
Oui, alors il a l'avantage des premiers en fait, parce que quand on est premier, on défriche, on est pionnier, pardon, on se souvient de nous et finalement on peut se dire si ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être qu'on ferait une émission sur sur quelqu'un d'autre finalement. Je veux pas le priver de son travail, de son génie, de son ambition, hein, mais il faut aussi remettre ça en contexte. Effectivement, Deakin a laissé sa marque. Il y a un excellent livre de Judith Brett, Bredt, qui s'appelle The Enigmatic Mr. Deakin, Monsieur Deakin, l'énigmatique, si vous voulez, qui retrace à la fois sa carrière politique et d'avocat, mais aussi sa vie personnelle. Et c'est une biographie qui est très bien conçue, je la recommande. Hein. Vis-à-vis de cet héritage entre 1905 et 1908, c'est un hyperactif. Et là, on sent l'avocat. La personne qui est occupée par le côté juridique, par le côté réglementaire, par le côté cadre. Et donc, non seulement il continue d'organiser la fonction publique fédérale, ce qui est important pour un État naissant, mais aussi il met en place une nouvelle politique de nouvelle protection, new protection, sur à la fois sur les tarifs douaniers, mais aussi sur l'arbitrage industriel. C'est-à-dire peut-être quelque chose qui d'ailleurs inspirait hein, des hommes politiques français qui sont venus étudier ça après à la fois avant et après la Première Guerre mondiale sur justement cette politique d'arbitrage. Au lieu d'aller dans la rue et de faire grève et de tout casser, on oblige les patrons et les employés à se mettre autour d'une table et personne ne sort tant qu'on n'a pas trouvé une solution qui fonctionne. Donc en fait, vous avez un droit social. En Australie, qui est très puissant qui est dans l'intérêt, enfin, qui va main dans la main avec l'idée que se fait un citoyen de sa valeur dans l'Empire britannique. Il y a aussi des lois sur la monnaie, sur la défense, sur le siège du gouvernement, hein, puisque à l'époque, le gouvernement australien est à Melbourne dans ses premières années, mais une fois l'Australie fédérée, il est décidé que la nouvelle capitale serait à Canberra. Donc cette décision se fait un peu dans ces années-là. Et puis, il y a le côté institutionnel aussi, c'est-à-dire comment on organise les fonctions et l'ossature de l'État australien actuel. Il y a des commandes de bateaux, je crois, qui sont faites, enfin de destroyers. Destroyers, oui, destroyers. Puis il y a un projet de service militaire universel aussi pour justement être prêt en cas de conflit. Donc ce sont des années, si vous voulez, de bâtisseurs, parce que tout est à définir pour ce nouvel État. Et ayant obtenu une coalition à peu près stable pendant plus de 3 ans, Deakin est en mesure justement de poser ses bases. Et un bon nombre des institutions australiennes d'aujourd'hui peuvent être effectivement directement liés à Monsieur Alfred Deakin.
Ok, eh bien merci beaucoup Romain pour toutes ces explications sur ce premier personnage illustre qui a été Premier ministre en Australie. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et dans cette mini-série sur les premiers ministres, on s'intéressera cette fois à un travailliste, Billy Hughes. C'est l'homme qui a la plus longue carrière parlementaire de l'histoire, plus de 50 ans au Parlement. Il y aura, à n'en pas douter, plein de choses à dire à son sujet. Merci beaucoup, Romain, et merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci à vous, bonne journée, au revoir.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.